internationale de RFI. 9h10 ici à Paris. C'est l'heure de vous retrouver, Nathalie Amar. Appel sur l'actualité.
Merci Stéphane Genest. Bonne journée à
bonne
vous.
Bonne journée, merci.
Appel sur l'actualité. Radio G. Vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.
Venu d'ailleurs. La nouvelle émission sportive, mais pas que, de Radio G. Animée par Valentin Dedon pour l'association La Dalle Angevine. À retrouver un vendredi sur deux à 9h10 sur Radio G 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Une conversation intime avec un ou une invitée venue d'ailleurs et qui vit aujourd'hui sa passion pour le sport à Angers. Alors à très vite dans Venu d'ailleurs sur Radio G. Venu d'ailleurs, c'est un podcast pensé pour vous faire découvrir des personnalités, actrices et acteurs de la vie sportive angevine, et qui possèdent toutes et tous ce très beau point commun. Elles ou ils sont nés dans un pays qui n'est pas la France, dans un ailleurs qui déclenche une curiosité, comme une invitation au voyage, un voyage humain. Alors nous allons les accueillir et les questionner sur leur terre natale, sur leur rencontre avec le sport là-bas, sur le chemin qui les a conduits jusqu'ici, à Angers, et sur le rôle qu'ils ou elles occupent aujourd'hui dans le paysage sportif local. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Venu d'ailleurs. Alors aujourd'hui, nous avons avec nous au local de l'association La Dalle Angevine, Manirou Dembélé, 33 ans, qui est impliqué à plusieurs niveaux dans l'athlétisme à Angers, nous en reparlerons. Bienvenue à toi Manirou et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Première question rituelle de ce podcast, où es-tu né? Dans quelle ville et dans quel pays?
Je suis né au Sénégal, à Tivavouane, et j'ai grandi à Medina Sabah, dans le centre du Sénégal.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet endroit, de ton quartier, de cette ville, de son ambiance?
Medina Sabah, oui, c'est dans le centre du Sénégal, plus précisément dans la région de Kaolack. C'est un village où j'ai grandi avec ma famille et mes parents. Un village sympathique et puis très très cool. J'ai des beaux souvenirs parce que j'ai fait toute mon enfance là-bas.
C'est quoi ces souvenirs un petit peu de l'ambiance, de l'école, de la famille, de la vie en famille?
C'est ça, c'est l'école, la famille, les amis, c'est le sport aussi. Et c'est plein de choses.
Alors tu parlais du sport justement, comment ça s'est fait ta rencontre avec le sport dans le village peut-être ou dans un club, comment ça s'est passé?
Là-bas ça n'existait pas les clubs, du coup ce que moi je faisais du basket, pas en club mais juste comme ça dans la rue avec des amis parce qu'on avait le terrain de basket qui était juste collé à notre maison. Et le soir, après les cours, parfois on partait là-bas faire un peu de basket et puis revenir à la maison. Mais mon père ne voulait pas qu'on fasse du sport parce que lui, c'est un vétérinaire qui était affecté là-bas. Et tout ce qui l'intéressait, lui, c'était les études. Du coup, il voulait pas qu'on fasse de sport du tout. Alors que lui-même, c'était un président d'un club de foot local là-bas. Étonnant, mais bon, c'est comme ça. Et on partait au terrain de basket en cachette, et puis on revenait à chaque fois, parfois on nous punissait et tout, mais bon, on partait à chaque fois et on revenait. Et du coup, un jour, j'étais au collège, et il y avait les compétitions scolaires. Et il y avait les compétitions scolaires qu'on appelle les UASU chez nous. Et du coup, moi, j'étais allé juste pour voir en tenue de ville comme ça, habillé, en pantalon, jean et puis t-shirt. Et puis je suis allé voir et puis je voyais des gens faire du saut en hauteur. Ils sautaient en ciseaux, il n'y avait pas de mousse de saut en hauteur. Ils sautaient et puis ils rebondissaient sur le sable. Et j'ai vu, ils passaient tout le temps et puis ils touchaient la corde. Et à la fin, je suis allé voir le prof qui a organisé ce truc-là. Je lui dis, par contre, ça, je peux le passer. Mais il a rigolé. Il me dit, non, il m'a pas pris au sérieux. Et j'ai fait trois pas et puis je saute en ciseaux et je passe 1m80. Et là, il rajoute mon nom sur le bout du papier. Et comme ça, j'étais qualifié au niveau départemental. Je gagne le niveau départemental.
Donc sur un saut, ton premier saut de ta vie, t'as passé ça et t'as été inscrit et qualifié directement.
C'est exactement. Et comme ça, j'étais qualifié au niveau régional, au niveau départemental. C'était les compétitions scolaires qui avaient un peu d'ambiance et tout. Les gens venaient de partout pour regarder. Et puis, il y avait une finale nationale qui était organisée, où parfois même il y avait le président de la République qui était présent et tout. Et du coup, j'ai gagné le niveau départemental. Je commence à me faire un petit nom dans le village. Et du coup, j'étais parti au niveau régional. J'ai gagné le niveau régional aussi. Et puis, j'étais qualifié au niveau national.
D'accord, ok. Et le moment où tu as aperçu les autres faire cette discipline, le saut en hauteur comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu un attrait pour ça ou tu t'es dit je peux le faire? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la naissance du goût aussi pour cette discipline-là?
Je connaissais pas du tout le saut en hauteur avant. Bah, on le faisait à l'école, en EPS et tout, mais bon, c'était en ciseaux et puis après, ça y est, on s'arrêtait là, quoi. Mais le jour où je suis allé faire les championnats nationaux, en fait, j'ai vu, il y avait une stade et il y avait un sautoir en hauteur, il y avait des chaussures exprès de saut. Je connaissais pas du tout. Je me suis dit, bah, putain, c'est quoi ça? Et puis, j'ai commencé. Je pense qu'au niveau national, j'étais arrivé quatrième, du coup.
Donc ta première compétition nationale au Sénégal que tu as faite, donc c'était dans quelle ville? C'était dans la capitale?
C'était à Dakar.
D'accord.
C'était les championnats nationaux cadets juniors.
Et donc cette première expérience, tu fais quatrième.
J'arrive, je fais quatrième et puis je fais la même performance que le médaille de bronze, du coup dessus, mais bon après. Il y a une ancienne sauteuse en hauteur qui m'a repéré là-bas.
Tu avais quel âge?
Je devais avoir 14-15 ans. Il y avait une ancienne sauteuse en hauteur qui m'avait repéré là-bas, qui s'appelait Yafama, du coup, qui était sauteuse en hauteur, et puis qui sautait à cette époque-là, mais qui était un peu plus âgée que nous. Et puis, du coup, elle avait pris mon numéro et les coordonnées de mes parents pour les convaincre de me laisser venir faire du saut en hauteur à Dakar, parce qu'elle avait vu que j'avais des capacités.
Donc elle t'a aidé pour structurer un peu ta pratique, que tu viennes t'entraîner, vivre à Dakar pour t'entraîner dans une structure, c'est ce qui s'est passé?
Exactement, c'est comme ça que ça s'est passé. Du coup, elle m'avait proposé de venir à Dakar si j'avais de la famille qui pouvait m'héberger là-bas. Et j'avais de la famille, en fait, qui pouvait m'héberger. Je suis allé là-bas et puis on habitait juste à côté, à 2 minutes du stade Léopold Sédar Senghor. Et j'ai intégré un club d'athlètes là-bas. Et puis, elle m'a mis dans des mains d'un entraîneur, d'un sauteur en hauteur. Et la même année, du coup, j'ai fait ma première sélection nationale.
Et alors, je peux pas m'empêcher de te demander par rapport à ton papa dont tu nous as parlé tout à l'heure. Tu devais braver son interdit pour aller faire du sport. Comment il a réagi? Est-ce que il y a eu des explications? Il a accepté aussi de voir par rapport à ton niveau? Il a adhéré un petit peu à ton projet sportif de haut niveau?
Au fait, au début, il avait pas su que je faisais du saut en hauteur quand j'ai gagné les championnats, UAC. Il l'a su quand je devais partir faire les championnats départementaux. Et là, bah, j'avais pas le choix parce que c'était un voyage et puis il fallait l'autorisation des parents. Et du coup, il m'a laissé partir, j'ai gagné et j'ai été qualifié au niveau régional. Du coup, là, après, il a accepté au fait que je fasse du saut en hauteur et je pense que j'ai ouvert la porte aussi à mes petits frères aujourd'hui qui sont basketteurs professionnels. Il a laissé après à mes frères faire du sport aussi. Ils ont choisi le basket. Il y en a un qui est aux États-Unis en NCAA et l'autre qui joue en professionnel en première division en Espagne.
D'accord, donc tes deux frères, tu les suis un petit peu aussi, leur parcours, tu vas les voir jouer de temps en temps.
Celui qui est en Espagne, je pars le voir jouer de temps en temps. Parfois, il faisait des matchs en France ou en Europe, du coup, je me déplaçais parfois avec des amis et tout. Et puis, celui qui est aux États-Unis, j'ai pas encore eu la chance d'aller le voir, mais bon.
Peut-être. En tout cas, malgré l'interdit paternel, toute la fratrie a fait carrière dans le sport.
Dans le sport, c'est ça.
Et donc à un moment donné, le Sénégal dont on parlait, tu l'as quitté, tu en es parti. Comment ça s'est passé? Pourquoi? Comment? J'imagine que c'est en lien aussi avec ton évolution sportive. À un moment donné, tu es parti t'entraîner ailleurs, tu es parti préparer ton projet ailleurs.
C'est ça. Après 2007, lors de ma première sélection chez les jeunes, du coup j'étais cadet, mais j'étais surclassé chez les juniors pour faire les championnats d'Afrique. Je suis allé au championnat d'Afrique et je suis revenu. Et deux ans après, j'ai fait 2m10. Puis ça faisait longtemps que le Sénégal n'avait pas eu un athlète qui faisait 2m10, du coup. Et j'avais pas eu de proposition à cette époque-là au Sénégal. Il y avait un centre international d'athlétisme qui était à Dakar. Et il y avait des athlètes internationaux. Il y avait des athlètes internationaux qui étaient dans ce centre-là, mais moi j'ai jamais eu de proposition du coup pour intégrer ce centre-là. Et je suis parti au Maroc avant. J'avais des contacts d'un club au Maroc qui voulait de moi, et puis ils m'avaient contacté, et puis je suis allé au Maroc et j'ai fait 3 ans là-bas dans un club.
Donc où est-ce que tu étais exactement au Maroc, dans quel club?
J'étais à Rabat, au FUS de Rabat.
D'accord, et du coup, c'était un moment donné où tu as continué un peu à grandir aussi dans ton sport, à pouvoir aller faire des compétitions ailleurs qu'au Maroc, des compétitions internationales où tu représentais ton pays.
Oui, exactement. Le but, c'était ça, c'était de trouver un endroit meilleur pour pouvoir s'entraîner et évoluer dans ma discipline. Et au Maroc, il y avait tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est compétition. Il y avait beaucoup trop de compétitions, plus qu'au Sénégal. Et c'était plus organisé au niveau des clubs aussi, pour les déplacements. Et puis aussi, ça me permettait aussi de pouvoir venir en Europe faire des compétitions et de retourner au Maroc.
Et pour revenir un petit peu, pour faire une parenthèse sur la technique, sur ta discipline, tu nous parlais tout à l'heure que tes premiers sauts, c'était en ciseaux. Après, j'imagine que tu as appris à sauter un peu différemment. Comment ça s'est passé aussi, l'apprentissage de cette technique-là, du saut? Comment ça s'est fait?
Après, ça s'est fait naturellement, parce que je regardais beaucoup, beaucoup de vidéos à l'époque. Je me souviens, je partais dans les cybercafés, acheter 1 heure ou 2 heures et télécharger des sauts, tout ce qui était sautemayeur, tout ce qui était les plus grands sauteurs au monde, du coup Barchim, et puis regarder comment leur façon de sauter et tout. Et puis aussi j'avais un entraîneur aussi jeune aussi qui m'avait beaucoup aidé à l'époque. Parce que j'arrive, j'étais grand, évidemment, mais bon, j'avais des qualités physiques, mais j'avais pas la technique. Du coup, on a beaucoup bossé sur la partie technique avec mon coach de l'époque, Cher.
Et donc toi-même, tu avais une curiosité pour cette discipline, pour les manières de sauter, pour son histoire, pour les grands sauteurs, et tu te documentais aussi, donc toi-même, t'avais cette envie-là.
Exactement, c'était juste pas aller au sport, faire ma séance et rentrer chez moi. Non, c'était aller me documenter, aller voir des livres, des bouquins, regarder sur Internet comment ils s'entraînaient, comment ils faisaient pour progresser.
Il y a un livre un petit peu qui t'a marqué, que tu avais peut-être tout le temps avec toi au-dessus, ou que tu gardes
Non, pas particulièrement, pas, non, du tout. Après, je regardais un peu de tout, moi, l'athlète, du coup, j'adore. Et puis, je regardais tout.
Ensuite, il y a eu ton arrivée à Angers. Mm-hmm. Comment ça s'est fait du Maroc jusqu'à Angers? Est-ce que ça s'est fait directement comme ça? C'était une opportunité? Il y a eu des étapes avant? Raconte-nous un petit peu ton arrivée ici.
J'étais basé au Maroc, mais je venais en Europe pour faire des compétitions, ce qu'on appelle des meetings en athlétisme. Il y avait des organisateurs qui étaient invités à venir faire des meetings en Europe, en Suisse, Belgique, France et tout. Et j'avais croisé un dirigeant d'un club français qui est sur Paris. Atelier 91, et puis qui m'avait proposé de prendre une licence chez eux. Et puis, j'ai accepté. On avait déterminé les conditions, du coup, et puis j'ai accepté tout en restant au Maroc pour la première année et puis venir juste faire des compétitions pour le club, notamment les interclubs, premier tour, deuxième tour, et puis les championnats de France, et puis repartir au Maroc. Au début, c'était ça. Et il y avait une amie qui habitait sur Angers, du coup, je suis venu la voir sur Angers, et il y a 9 ans, et depuis, je suis resté.
Donc tu es arrivé à Angers il y a 9 ans maintenant, au début pour t'entraîner, et tu étais licencié dans un club à Angers du coup?
Oui, j'étais licencié quand je suis arrivé à Angers, j'étais encore licencié à Atelier 91, et puis j'étais basé sur Angers. En 2014 je suis arrivé, j'ai posé mes valises sur Angers, et puis je continuais à s'entraîner sur Angers tout en restant licencié à Atelier 91. Et puis 2 ans après, du coup, j'ai croisé une entraîneur d'athlée sur Angers, le 2A, Michel Jean. Du coup, on a discuté, et puis du coup, elle m'a entraîné quand j'étais blessé au genou, et puis je voulais changer de discipline, faire un peu de 400 avant de revenir faire du 100 hauteur. Et suite à ça, j'ai décidé de changer de club et puis de venir sur Angers.
Et jusqu'où t'as emmené le saut en hauteur, en termes de performance, jusqu'où ça t'a emmené, quelle est un petit peu ton ta hauteur phare et tes compétitions un petit peu culminantes de ton parcours au niveau
En fait, je peux dire qu'au saut en hauteur, j'ai pas fait tout ce que j'ai voulu faire, parce que j'ai été très très vite blessé au genou, que j'ai jamais réussi à soigner. Après, j'ai fait 2m16. Mon record personnel aujourd'hui, c'est 2m16 que j'avais fait au Maroc à l'époque. Et même en faisant 2m16, j'avais une tendinite rotulienne au genou qui m'empêchait de s'entraîner correctement. Je faisais tout le temps des coupures. Du coup, je pouvais m'entraîner. Il y avait par exemple 2 mois où j'étais bien, je m'entraînais tranquillement et hop, tendinite, et puis arrêt 4 ou 5 semaines, quoi. Et j'ai jamais réussi à faire ce que je voulais en tant qu'athlète. Mais le saut en hauteur m'a amené à visiter plein de pays, à aller faire des compétitions au niveau national, au niveau international. À voyager, d'où aujourd'hui pourquoi je suis là, et je suis vraiment reconnaissant. Mais bon, après c'est comme ça, c'est le sport de haut niveau. Il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent pas, c'est comme ça.
Du coup, à un moment donné, tu as dit stop face à un petit peu ces problèmes récurrents de blessures. Tu as un petit peu arrêté ton parcours au niveau, et tu t'es reconverti aussi, mais en restant dans ton univers passionnel, dans l'athlétisme. Explique-nous aujourd'hui à Angers, quelles sont tes activités en lien avec l'athlétisme?
Quand je suis arrivé à Angers, moi, mon but, c'était de préparer les Jeux Olympiques de Rio 2016. C'était mon objectif. Et comme j'arrêtais pas de blesser, du coup, à un moment, je suis allé voir un médecin de sport, Antoine Bruno, qui est au CHU. Et puis, au début, avec mon coach qui était ici, on avait réfléchi à faire une opération. Et je suis allé le voir, et puis, il m'avait conseillé de pas le faire. C'était mon choix de le faire ou de ne pas le faire, mais il m'avait dit que ça peut bien se réparer, mais ça peut aussi revenir, quoi. Et du coup, suite à ça, j'ai réfléchi, et puis comme j'ai toujours aimé l'athlétisme aussi, j'avais discuté avec mon club, le 2A, pour pouvoir passer des formations. Et puis ils m'ont aidé à passer des formations au niveau de la Fédération française d'athlétisme.
Donc pour être entraîneur, pour accompagner des jeunes ou
c'est
des
ça,
jeunes.
Au début c'était ça, en 2017-2018, du coup j'ai passé mon premier diplôme avec le comité Maine-et-Loire athlétisme. Et c'était les bases athlées, premier degré, deuxième degré, ainsi de suite.
Tu aimes ce rôle-là, d'aider les autres, d'accompagner les autres, de les faire grandir, de les faire progresser, chacun à son échelle, que ce soit pour le haut niveau ou pour des jeunes, pour le plaisir?
Ouais, je pense que j'ai toujours aimé ça. tendre la main ou aider les gens à se développer sur ce qu'ils veulent. Je donne juste un exemple parce qu'aujourd'hui, j'ai aussi une association aussi qui s'appelle Athlétisme Sénégal où je récolte des chaussures, des chaussures du textile que j'envoie souvent au Sénégal pour permettre aux jeunes qui n'ont pas les moyens de pouvoir faire du sport avec des chaussures dans leurs pieds, parce que moi j'ai connu ça au début quand j'ai commencé le saut en hauteur, j'avais pas de chaussures.
Tu connais un peu les conditions là-bas qui sont pas toujours optimales et du coup ton association aide un petit peu à fournir le matériel nécessaire pour s'entraîner un peu mieux.
Exactement ça.
Comment s'appelle cette association et donne-nous un petit peu les informations pour les gens qui seraient intéressés pour y participer, donner un peu du matériel.
C'est ça, ça s'appelle Athlétisme Sénégal. L'association s'appelle Athlétisme Sénégal. De base, je l'avais créé au Maroc parce que j'avais vu, j'étais dans ma chambre à l'époque, en 2012, j'avais vu que c'était... l'athlétisme Sénégal n'était pas assez diffusé. Et puis du coup, moi, mon rôle, c'était, après les compétitions... J'avais créé une page Facebook et puis à l'époque je balançais tous les résultats de tous les athlètes sénégalais qui sont partout dans le monde.
D'accord, donc tu faisais vraiment une veille pour informer sur l'actualité de l'athlétisme sénégalais et dire qui existe, qui fait quoi, pour valoriser aussi pour ce que font tes compatriotes.
Exactement ça, et puis c'est parti, c'était devenu après une page le plus suivie. La page la plus suivie au niveau de l'athlétisme sénégal. Et puis, je travaille avec des amis. Il y en a qui étaient en France, on avait des amis qui étaient aux États-Unis, qui donnaient des coups de main à publier aussi des résultats des athlètes sénégalais basés aux États-Unis. Et puis moi, je m'occupais des athlètes sénégalais basés en France, en Italie.
Oui, du coup, pour diffuser ces informations, il fallait que tu sois en contact avec eux. T'avais des liens, tu les appelais, tu t'occupais aussi un petit peu de savoir un petit peu ce qui se passait pour eux.
Exactement.
De leurs difficultés aussi passagères, peut-être.
Exactement. On faisait des interviews avec les athlètes, on essayait d'aller voir les athlètes, par exemple, on a parfois des athlètes sénégalais qui sont nés ici et puis qui veulent représenter le Sénégal. Moi, par exemple, je partais les voir, discuter avec eux pour voir leurs projets, s'ils sont intéressés et tout. Et aujourd'hui, ce truc-là est devenu une association, du coup, qui vient en aide les athlètes qui sont au Sénégal par le biais du matériel, etc.
Et pour terminer, est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de l'accompagnement que tu fais auprès de sportifs de haut niveau qui sont issus du continent africain et qui sont basés en France ?
Ok, aujourd'hui je travaille avec la Fédération Sénégalaise d'Athlétisme parce que je fais le lien entre les athlètes qui sont au Sénégal et qui sont en France, et je travaille aussi avec le Comité Olympique Gambien. Je fais venir des athlètes dans des clubs français, que je place dans des clubs français. Le but, c'est qu'ils trouvent l'équilibre et puis aussi trouvent les conditions, parce que la plupart de ces athlètes-là, leur but, c'est de préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Aujourd'hui, sur Angers, on en a 5-6 qui sont sur place et qui s'entraînent sur Angers et puis qui préparent Paris 2024.
Donc ça, ces athlètes-là, tu n'es pas leur entraîneur, mais tu es un peu leur facilitateur de vie, de performance. Tu dois veiller à ce que tout se passe bien, les conditions. Tu es un peu leur écoute, leur épaule aussi, pour les accompagner, les aider.
C'est ça, je suis un peu leur manager, en quelque sorte, même si je n'ai pas encore les diplômes. Après, l'objectif, c'est de les passer aussi, et puis d'être manager dans l'athlète. Et aujourd'hui, moi, mon rôle dans tout ça, c'est de préparer leur venue, aller voir qui est éligible pour pouvoir venir faire toutes les démarches nécessaires pour qu'ils puissent venir s'installer. Et puis aussi derrière, aussi quand ils sont arrivés aussi, il y a des réalités aussi. Il fait froid ici, il y a le côté administratif, il y a le côté logement, il y a le côté lien avec les clubs et tout. Et aujourd'hui, c'est moi qui gère tout ça. Et puis aussi la partie la plus importante, c'est les compétitions aussi, parce qu'ils sont ici pour faire des compétitions. C'est moi qui les engage dans des meetings, dans des compétitions, qui organise leurs déplacements et puis qui en lien permanent avec leur fédération.
Dernière question, Manirou, C'est quand la prochaine fois que tu vas retourner dans ton pays, au Sénégal ?
Cet été, sûrement.
Tu vas y passer un petit moment, tu as de la famille encore là-bas ?
Oui, j'ai ma famille qui est là-bas, j'ai ma femme et mon enfant qui est là-bas et puis toute la famille.
Merci beaucoup Manirou.
Merci à vous.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et puis à bientôt pour un nouvel invité et un nouveau voyage.
www.radio-g.fr
Sometimes I wonder.